BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Thomas Asportas.
Allez, 18h, bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, on va vous parler de la nouvelle économie. On va vous parler des nouveaux géants de l'économie mondiale avec dans l'automobile le chinois BYD qui vient de présenter deux nouveaux modèles avec, tenez-vous bien, des hybrides rechargeables qui ont 2000 km d'autonomie. Vous avez bien entendu, 2000 km et pour moins de 13 000 euros. Et puis dans l'intelligence artificielle, on va parler d'NVIDIA qui pourrait devenir dans les toutes prochaines heures la deuxième capitalisation boursière au monde devant Apple. Le monde change, il change très vite et on en parle ce soir dans Good Evening. Dans l'actualité, on va aussi se replonger dans le dossier Atos. Vous savez qu'on est à deux jours de la deadline des offres de reprise et visiblement les deux candidats, David Layani et Daniel Kretinsky, sont en train de perfectionner, d'améliorer leur offre de reprise. On verra ça dans un instant avec Mathieu Pechberti. Et puis, c'est censé être l'un des boulets de l'économie française, notre fameux millefeuille territorial administratif, toutes nos strates de collectivités territoriales. Et un rapport publié ce matin nous dit que ça nous coûterait la bagatelle de 7,5 milliards d'euros par an. Rien que ça. Ça aussi, bien évidemment, on va en parler dans Good Evening. Et puis à 18h10, Sylvie Chevrillon reçoit dans la grande interview l'entrepreneur, le président du groupe de restauration haut de gamme, Stéphane Manigold, président du groupe Éclore et président aussi d'une partie de sa profession, président de l'UMIH Grand Paris. Voilà le programme de Good Evening, c'est parti. On est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et on se replonge donc dans le dossier Atos ce soir pour ouvrir ce journal. Bonsoir Mathieu Pechberti. On le disait, on est à deux jours maintenant de la deadline théorique, en tout cas fixée pour les offres de reprise du groupe. Et d'après vos informations, Mathieu, les deux candidats à la reprise, Daniel Kretinsky et David Layani, sont en train de perfectionner leur offre.
Oui, exactement. On est un peu dans ce qu'on appelle le money time. Oui. Vous savez, hier, il y a eu une grande réunion à Bercy au cours de laquelle les deux candidats, Daniel Kretinsky, qui est venu lui-même en personne, présenter son projet, et David Layani, ont présenté leur offre de reprise sur Atos. Et donc, ils ont effectivement amélioré, rehaussé. Ils sont tous les deux montés aux enchères pour tenter de convaincre les créanciers d'Atos qui, eux, finalement, choisiront qui rachètera la boîte. Alors, il est question d'annuler plus ou moins de dettes. Daniel Kretinsky, lui, demande d'en annuler beaucoup, 4 milliards d'euros sur les 5 milliards d'euros de dettes. David Layani, lui, beaucoup moins, 3,2 milliards et même maintenant 2,8 milliards. On ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais il y en a un qui parie davantage sur, on va dire, un effacement de la dette massif pour redresser la société. Et puis l'autre, David Layani, qui, lui, préfère en effacer moins et ne pas avoir le contrôle de la société et donc, finalement, satisfaire les créanciers. Les créanciers, effectivement, pour le moment, en tout cas, penche en faveur de David Layani. Alors, c'était le cas pour une partie des créanciers depuis une semaine. Il y avait un point d'interrogation sur les banques. Qu'allaient faire les banques, qui sont aussi détentrices de la moitié de la dette d'Atos? Il y avait eu un petit peu une sorte de coup de force de BNP Paribas la semaine dernière, qui avait manifesté son opposition au projet de David Layani. Pour le moment, effectivement, on semble quand même se diriger vers, en tout cas, un choix de David Layani. Mais soyons prudents, il reste deux jours de négociations. Il y a des négociations parallèles qui sont véritablement menées entre les créanciers avec Daniel Kretinsky et David Layani. Les choses peuvent quand même encore bouger. On n'est jamais à l'abri d'un renversement de situation. David Layani, lui, quelque part, est allié, associé avec les créanciers d'Atos, qui pèsent évidemment très lourd dans le choix du repreneur. C'est eux finalement qui votent pour l'un des deux, mais il reste quand même Daniel Kretinsky, qui d'abord est un homme riche et ensuite qui pourrait peut-être s'allier, certains le disent, avec un fonds d'investissement qui s'appelle Bain Capital, qui lui aussi avait déposé une offre sur Atos. Voilà. Peut-être un énième rebondissement, même si pour le moment,
petit avantage à Layani,
la couleur de la fumée semble pencher en faveur de David Layani.
Bon, et cette deadline donc fixée à vendredi, on verra si elle est respectée ou pas.
Plus sûrement dans le week-end, sûrement un dimanche soir, un communiqué de presse à tous.
Peut-être. Ça arrive dans ce genre de gros deal. Merci beaucoup Mathieu Pechberti. On poursuit avec, je vous le disais dans le sommaire, cette annonce foudroyante de BYD. Le numéro 1 mondial chinois de l'électrique a dévoilé il y a quelques heures deux nouveaux modèles équipés d'un moteur hybride rechargeable qui affiche 2000 km d'autonomie et vendu autour de 13 000 euros. Vous l'avez compris, c'est un véritable rouleau compresseur que lance BYD pour écraser la concurrence de Tesla et des constructeurs automobiles traditionnels. Mathilde Chaminade.
Aller de Madrid à Munich sans faire le plein ni recharger sa batterie, c'est ce que permet le nouveau moteur hybride du numéro 1 chinois des voitures électriques. La clé de cette réussite, un moteur thermique permettant de parcourir 1300 km, couplé à un moteur électrique pour les 700 km restants. BYD dépasse sa concurrence, Geely atteint 1370 km d'autonomie en véhicule hybride et Tesla 629. La nouvelle technologie de BYD est prête à l'emploi, elle équipe désormais deux modèles de berlines de taille moyenne, la Qin L et la Seal 6, vendues sur le marché chinois entre 12 000 et 18 000 euros. En France, le prix moyen d'un véhicule hybride se situe entre 30 000 et 40 000 euros. Mais la route est encore longue avant de pénétrer le marché européen. Il faut d'abord homologuer les modèles en obtenant un certificat de conformité européen. Et les constructeurs chinois sont aussi visés par une enquête de la Commission européenne qui les suspecte de bénéficier injustement de subventions accordées par Pékin. Les résultats de cette enquête tombent la semaine prochaine. Des droits de douane punitifs pourraient leur être imposés.
Mathilde Chaminade. Et pendant ce temps, Volkswagen a présenté ce qui ressemble à son plan de survie. Une voiture électrique à 20 000 euros prête pour 2027. Un modèle que Volkswagen avait envisagé de produire avec Renault il y a quelques semaines. Mais les deux constructeurs, on vous en a parlé sur BFM Business, ne sont pas allés plus loin dans les discussions. Le groupe allemand dit avoir les épaules solides pour y aller tout seul. Écoutez le patron de Volkswagen, Oliver Blum, ce matin lors de l'Assemblée Générale des Constructeurs.
The Volkswagen Group will be ready to come up with an electric vehicle in the pricing region.
Le groupe Volkswagen sera prêt pour lancer une voiture électrique autour de 20 000 euros dans la seconde moitié de cette décennie. Nous tenons notre promesse de rendre la mobilité abordable pour les générations à venir. Cette voiture est aussi l'expression de l'identité de notre marque en Europe. Pour l'Europe, nous allons développer cette voiture en interne chez Volkswagen. Nous allons bénéficier d'économies d'échelle, profiter d'une production locale. Nous allons aussi profiter des forts progrès technologiques de notre plateforme électrique. La voiture de Volkswagen à 20 000 euros aura un prix attractif et sera la référence en termes de design, de qualité et de technologie. Nous allons aussi prouver que Volkswagen peut développer une voiture rapidement et de manière efficace, tout cela au rythme européen.
And we're also going to demonstrate that Volkswagen can develop quickly, effectively and efficiently with Europe's speed.
Voilà, Oliver Blum, le président du groupe Volkswagen. Et puis pour finir, c'est un événement qui se passe aujourd'hui dans le capitalisme français. Maurice Lévy, après 40 ans à la tête de Publicis, a quitté ce matin ses fonctions de président du conseil de surveillance à l'occasion de l'Assemblée générale du groupe. Arthur Sadoun devient PDG de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Maurice Lévy s'en va. Bien au contraire, il va rester la vigie incontournable du géant mondial de la publicité. Rebecca Blanc-Lelouch.
Maurice Lévy quitte ses fonctions, mais ne quitte pas Publicis. À 82 ans, il va rester président d'honneur et n'est pas prêt d'abandonner son groupe qu'il a dirigé pendant 30 ans, puisqu'il continuera d'assister au conseil et animera un groupe de travail, notamment sur la stratégie et sur l'innovation. Surtout, il va continuer à faire profiter le groupe de pub de son inégalable carnet d'adresses. Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, il connaît tous les géants de la tech mondiale et les patrons les plus importants en Europe. Maurice Lévy et Publicis restent donc indissociables. Il nous confie même sa solidarité infinie au groupe et à Elisabeth Badinter, la fille du fondateur Marcel Bluchstein, qui se repose entièrement sur lui depuis 30 ans et premier actionnaire de Publicis avec 6,5% du capital. Et Maurice Lévy rappelle que lui est juste derrière, deuxième actionnaire du groupe avec près de 2%, une manière de prévenir une éventuelle offensive de Vincent Bolloré, propriétaire d'Havas, dont la rumeur n'a jamais cessé depuis plusieurs années. Difficile d'attaquer qui est Publicis, qui n'a jamais valu aussi cher en bourse. Le groupe est au plus haut et vaut près de 30 milliards d'euros. C'est ainsi donc le moment parfait pour Maurice Lévy de prendre un peu de recul.
Rebecca Blanc-Lelouch, 18h08, on va sur les marchés. Les marchés, la clôture à Euronext. Bonsoir, Aude Kersulek, on vous retrouve sur place. Le CAC cède pas mal de terrain ce soir.
Et oui, clôture à moins 1,5%. Ça n'était pas arrivé depuis début janvier. On a perdu plus de 100 points par rapport à hier. Et ce qui est visible, c'est qu'on retombe sous les 8000 points. 7 935 points ce soir en clôture, dans un volume plus fourni que depuis le début de semaine. Il y a du monde à la vente et c'est la deuxième séance de baisse, alors que Wall Street évolue aussi en ce moment dans le rouge. Alors on a une donnée qui est ressortie en début d'après-midi qui ne nous a pas arrangé le moral, c'est l'inflation allemande. L'inflation qui est conforme aux attentes pour l'IPC, donc à 2,4% en mai, c'est un petit peu plus qu'en avril, mais l'IPCH, l'indice harmonisé, il est lui supérieur aux attentes à 2,8% au lieu de 2,7%. Ça veut dire que l'inflation allemande réaccélère un peu, même si c'était attendu. Et puis on a aussi cette pression obligataire sur les marchés. On a le taux à 10 ans américain qui est à 4,62% ce soir. C'est un plus haut depuis un mois et forcément ça pénalise les actions, ça pénalise la tech, ça pénalise le luxe sur le CAC 40 et aussi le secteur minier. Une des plus fortes baisses aujourd'hui, c'était ArcelorMittal. En revanche, une valeur qui a cartonné aujourd'hui, qui cartonne même depuis le début de l'année, c'est Renault. Goldman Sachs qui prévoit une évolution du cours de 40% dans les années à venir. On a 53 euros ce soir, plus 3% pour Renault et donc le CAC, lui, moins 1,5% à 7 935 points, Thomas.
Et on repasse donc sous les 8000 points. Merci beaucoup, Oscar Sulek. On jette un coup d'œil au marché américain. Rapidement, les marchés à Wall Street, le Dow Jones lâche aussi un peu de terrain. On recule de 0,97% à 38 470 points. Le Nasdaq, quant à lui, est aussi dans le rouge, un peu moins. On lâche 0,39% à 16 952 points. 18h10, Stéphane Manigold est dans un instant l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview, président du groupe Éclore et de l'UMIH Grand Paris. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonjour. Dans la grande interview, nous allons parler d'hôtellerie-restauration. Est-ce qu'il y a un danger? On voit bien que les faillites se multiplient. Est-ce que les Jeux Olympiques, c'est une opportunité? On sait qu'il y a beaucoup de restaurants qui se disent « Ah bah tiens, je vais pas pouvoir ouvrir ». Et puis, on parlera d'assurance chômage dans les métiers en tension. Bonsoir, Stéphane Manigold.
Bonsoir, Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Éclore. Vous avez 6 restaurants et même un 7e.
Plus maintenant. On est passé à 9.
9, y compris celui que vous venez de racheter.
Oui, avec celui qu'on vient de racheter, ça fait 9.
Vous allez nous expliquer comment vous l'avez racheté. Et puis, vous êtes président de la région de région UMI pour tout ce qui est Grand Paris. Ça veut dire qu'on est, on voit que vous êtes quand même très concerné par tout ce qui se passe. Premier point. Est-ce que il y a, on voit que les faillites se multiplient dans l'hôtellerie-restauration, surtout dans la restauration. Est-ce que pour vous, il y a un mieux ou alors, franchement, c'est une profession qui est en danger?
La réponse, elle va être plurielle. Moi, je veux pas faire, je veux pas que les téléspectateurs, les auditeurs nous identifient comme une espèce de profession un peu moins râleur, qui n'est mécontent. Moi, je suis très content, que les Jeux Olympiques arrivent. Oui, il y a une grande difficulté aujourd'hui dans le secteur, mais c'était un peu prévisible. Je crois que ici même à l'antenne, je disais que il y a trop de restaurants en France et faut l'assumer. Donc il y a une sélection un peu naturelle qui se fait aujourd'hui avec malheureusement, je peux que le déplorer, plus de 7000 procédures collectives l'année dernière.
Ça c'était le chiffre
sur le
2023.
Chiffre de 2023 et une accélération plus forte. On aura les chiffres là du semestre d'ici quelques jours, mais les indicateurs que l'on me remonte sont pas bons.
C'est plus difficile encore qu'en 2023.
Non mais vous savez, on est sorti du Covid avec des Français, des Françaises, un tourisme qui était puissant, qui est venu puissamment dans les établissements pour se libérer, pour passer à autre chose. On a été confinés, donc il y a eu une accélération très forte et une poussée très forte des chiffres d'affaires, des affaires qui se sont vendues en 2022 à des prix complètement absurdes, à des prix pharaoniques, ces mêmes affaires qui aujourd'hui plantent parce que elles pensaient que l'année 2022 allait faire bis repetita pendant 20 ans, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, attention, ou à mes associés d'ailleurs, qui sont mes salariés, attention, ce qu'on a eu en 2022, on ne va pas le reproduire éternellement.
En fait, il vous arrive, hier je recevais le deuxième promoteur immobilier, il y a eu un éclatement de la bulle immobilière qui a été très très sévère, et qui est encore très sévère parce que même lui, Alain Tarabella, il ne voit même pas la lumière au bout du tunnel. C'est la même chose finalement dans la restauration. Il y a eu des prix à tout point de vue et une inflation absolument gigantesque. Est-ce que aujourd'hui vous en payez les prêts à les pots cassés?
Oui, alors contrairement aux agents immobiliers, on a des facteurs supplémentaires. C'est que nous avons massivement augmenté les salaires puisque nous avons eu un accroissement d'activité très fort. Les salaires ont augmenté de près de 17%. C'est-à-dire que si l'État a perçu des prestations supplémentaires, des charges et des cotisations sociales supplémentaires. Il y a eu la crise énergétique qui a sacrément secoué le secteur. Comme vous avez des factures qui ont fait fois 3, fois 5, fois 10 pour certains, ils ont mis la clé sous la porte. Et puis, il y a eu l'inflation des matières premières où on a répercuté au fond ces augmentations de prix. Mais aujourd'hui, force est de constater que le client, lui, il suit beaucoup moins. Il épargne beaucoup. On voit, moi j'avais le chiffre de 2023, on était à 4 500 milliards d'épargne des Français. En 2024, l'année n'est pas encore finie, on a plus de 6 000 milliards.
Ah oui, mais est-ce que finalement...
Vous vous rendez compte, c'est colossal.
Oui, mais on n'a plus envie d'aller tellement au restaurant, non? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de... d'offres.
Mais vous savez, Edwige, vous me connaissez, moi j'ai le franc-parler et nous avons un problème d'offres. On a un peu pris le consommateur pour ce qu'il n'est pas, soyons clairs, avec des pièges à touristes, avec, je vais faire mon Jean-Pierre Coff, la bouffe industrielle, de la malbouffe, comme dirait Jean-Pierre, c'est de la merde. Et donc, le consommateur, il n'a pas envie de payer une salade César industrielle à 25 euros, il n'a pas envie de manger un tartare mauvais sous gaz qui n'a aucun goût, complètement aseptisé, à 25 euros avec des frites industrielles. Elle est surgelée.
Pour pas faire de la pub.
Oui, voilà. Ouais, pas que Métro, mais même si Métro, aujourd'hui, c'est pas connu, mais 95% de ce qu'ils vendent, ce sont des matières premières, faut quand même le dire. Moi aussi, j'étais persuadé, puis le directeur général de Métro m'a invité à visiter ses entrepôts, et 95% de ce qu'ils vendent, ça reste des matières premières.
Oui, et puis en plus, alors, si je disais 6 restaurants tout à l'heure, vous en avez 8, maintenant 9, c'est en fait, vous avez 6 étoiles Michelin.
Voilà.
C'était les 6 étoiles Michelin.
On
bravo,
fait partie des groupes les plus étoilés de Paris, avec Aline Caleno. Que je salue, mon ami Yannick Aleno et mon ami Frédéric Anton.
Mais ce qui est aussi étonnant, et moi je vois ça au cœur de la capitale, c'est que maintenant vous voyez des fast-food partout. Le nombre d'ouvertures de fast-food, je ne sais pas si vous avez en tant que UMI, je ne sais pas si vous avez le syndicat, donc l'hôtellerie-restauration, si vous avez des chiffres ou pas. Enfin, dans la capitale, en tous les cas, c'est incroyable.
Il n'y a pas que dans la capitale. Juste à Paris, nous avons ce qu'on appelle 18 010 restaurants. Ce qu'on appelle des restaurants. Mais dans la définition, en fait, il n'y a pas de protection du mot restaurant. Pourquoi ? Parce que, au fond, vous avez un magasin de chaussures en bas de chez vous qui ferme.
Ouais.
Un restaurateur, entre guillemets, vient, le rachète. Il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas de mise aux normes. Il pose des micro-ondes, il l'ouvre, il s'appelle restaurant. Ouais. Bon, mais ça, c'est un vrai problème. Mais c'est un problème où j'ai alerté ici même le législateur en disant, petit 1, il faut de la transparence pour le consommateur. Parce que je rappelle quand même que le secteur de la restauration.
C'est un peu de l'argent aussi, hein. Il faut faire attention.
Aussi, mais le secteur de la restauration, c'est le dernier pan de l'économie française. Où le consommateur, quand il achète quelque chose, il ne sait pas ce qu'il consomme. Il ne sait pas ce qu'il achète. Il ne sait pas qui l'a fait. Il ne sait pas.
Vous faites une forme de mea culpa de votre profession, là, Stéphane.
Alors moi, je ne suis pas responsable des anciennes pratiques, mais je les ai toujours condamnées et je fais partie d'une nouvelle génération de restaurateurs qui considèrent que le consommateur, il a droit à la transparence. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des bons produits bien marketés, etc. Aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il veut, c'est du goût, de la transparence, de la gourmandise et au fond, une sauce qui vient vous cajoler quand vous allez manger au restaurant et pas des choses complètement aseptisées avec des espèces de concepts. C'est la fin des concepts, chère Edwige.
Ouais, la fin des concepts, le retour de la
vraie cuisine française, de la blanquette de veau.
Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Non, et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est que le vin était devenu, mais hors de prix, on avait l'impression qu'on achetait un lingot d'or. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que là aussi, les prix se sont effondrés.
Oui, alors on a des vins, je ne vais pas les citer, mais certaines bouteilles qui s'échangeaient de façon complètement délirante sur le marché à plus de 50 000 euros, notamment en Bourgogne. Ces mêmes bouteilles...
Romanée-Conti
Non, c'est même pas la Romanée-Conti, c'était le domaine Leroy qui s'échangeait dans ces tarifs. Les gens les achetaient 35 000 pour les revendre. Aujourd'hui, s'ils arrivent à la vente 20 000, ils sont contents. Donc ils perdent beaucoup d'argent. Et tant mieux, parce que au fond, un vin, Edwige, vous êtes comme moi passionné de vin, et ceux qui nous écoutent aussi, un vin, sa place n'est pas dans un coffre, c'est dans un verre.
Oui.
Et donc, c'est tant mieux que ce marché également baisse.
Donc il y a moins de spéculation.
Oui, moins de spéculation. On boit un peu mieux, et c'est tant mieux. Et puis nos amis bourguignons, pour pas les citer, ils commencent à le comprendre, et donc ils régulent eux-mêmes leurs prix à la baisse.
En résumé, sur ce point-là, Stéphane Manigault, 2024, c'est une année de tous les dangers, où le danger, il est passé. Et on va arriver aux Jeux Olympiques, parce que là aussi, c'est une chance, ou au contraire, ça peut être plus compliqué, il suffit de voir pour les Parisiens les embouteillages.
Vous savez, je crois qu'en mars ou mai, j'avais appelé mes confrères ici, en 2023, à consolider leur trésorerie, à faire attention, parce que nous allons traverser 2024, une année compliquée. Mmh. On y est, c'est le cas. Eh bien, oui, 2024, il va y avoir beaucoup de défaillances. C'est chaque Français qui circule, que ce soit dans Paris ou dans une ville comme Marseille, à Marseille, de la gare Saint-Charles jusqu'à l'Hôtel Dieu, vous avez un commerce sur deux qui est vide.
Ouais.
C'est un drame. À Paris, regardez le nombre de commerces vides qui ne trouvent plus preneur. Pourquoi ? Parce que les loyers des beaux commerciaux ont complètement explosé. Et en fait, vous devenez au fond le salarié de votre bailleur. Et donc, il y a un marché qui est complètement dérégulé. Moi, je visite quasiment plus un restaurant sans que les mecs, enfin les bailleurs, pardon, sont entre 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. C'est du délire.
Est-ce que là, on voit que, en fait, vous nous disiez, il y a de plus en plus de restaurants qui font faillite, d'accord ? Donc, mais est-ce qu'il y a des repreneurs ? Non. Donc, en fait, vous avez une offre de restaurants à vendre ou à reprendre qui est supérieure à la demande.
Alors, c'est toute la problématique de ceux qui veulent vendre aujourd'hui et de ceux qui se retrouvent, hélas, à la barre du tribunal de commerce de Paris, notamment, qui est complètement débordé parce que vous avez aujourd'hui plus de biens sur le marché que d'acquéreurs, que de gens qui ont envie d'investir dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est un choix politique que de redresser la barre, de faire un peu reculer le fast-food dans ce pays. C'est 54 milliards sur les 90 milliards de chiffre d'affaires de la restauration. Vous vous rendez compte, c'est colossal. Hein. C'est près de plus de 60% en France, pays quand même de la gastronomie. Plus de 60%, c'est la malbouffe du chiffre d'affaires national.
Ah oui, justement. Là. Alors, les Jeux Olympiques, est-ce que les restaurants pourront ouvrir ? Répondez à ma question, Stéphane Manigault. Je sens que vous tournicotez autour. Donc,
mais non, je ne tournicote pas. Ouais. Bah, déjà, il ne vous a pas échappé que les Jeux Olympiques, c'est fin juillet et août. Et c'est la période estivale où, par exemple, nous, dans la plupart de nos établissements, nous donnons des congés à nos salariés.
Ouais,
ouais. Y a 5 semaines de congés, il faut bien un moment les donner. Et alors, j'ai décidé quand même d'en ouvrir deux établissements à Paris. Dans le premier, parce que je sais que ça une galère en termes de circulation et donc les gens vont être beaucoup piétons et donc vont vouloir peut-être trouver une belle table et j'espère qu'ils la trouveront chez nous. On a déjà pas mal de réservations d'ailleurs au mois d'août mais on n'ouvre que le soir.
Et vous n'ouvrez que 2 restaurants sur 9 restaurants.
Oui parce que le...
Il y a beaucoup de gens comme vous, enfin beaucoup de restaurateurs comme vous.
Non, il y a un certain nombre de mes confrères qui vont ouvrir mais les Jeux Olympiques, moi je fais pas partie de ceux qui font de l'Olympique bashing à Paris.
Enfin, en même temps, vous nous dites, c'est simple, mais les restaurants ils seront fermés, quoi. Vous dites ça quand même.
Non, diriger c'est prévoir. Mmh. Je sais une chose, c'est que post-Jeux Olympiques, quand le monde entier aura vu cette magnifique cérémonie sur la scène, vous voyez la scène est derrière vous, quand le monde entier aura vu la Tour Eiffel, le Grand Palais rénové, les ponts qui sont absolument magnifiques, cette ville complètement incroyable, des milliards de personnes verront cela. Et des milliards de personnes vont se dire, tiens, et si on allait faire un séjour à Paris? Et ça tombe bien, je vais vous donner une autre date qui pour moi est un enthousiasme absolu. C'est le 8 décembre 2024. C'est l'inauguration de Notre-Dame. Et ça va attirer du beau tourisme, une belle clientèle, et je suis enthousiaste.
Donc, au-delà de votre groupe, est-ce que les restaurants vont pouvoir presque concrètement ouvrir? Parce que les fournisseurs, ils pourront pas être là, il faudra qu'ils livrent au milieu de la nuit, en fait.
Mais vous savez, je défends l'artisanat français, les commerces de proximité, de façon générale, les restaurants, évidemment, ont des problèmes. Mais je pense également à mes amis boulangers, je pense aux bouchers, je pense aux commerces, commerces de proximité que les Parisiens adorent de plus en plus. Eux aussi vont avoir difficulté. Mais je dois dire que, Moi, je suis rassuré. Je constate que le préfet Nunez, il gère plutôt bien la séquence sécurisation. Non, mais il a quand même fluidifié. Il y avait quand même beaucoup de fantasmes sur la circulation, l'absence de circulation. Oui, on ne pourra pas circuler.
Je peux vous dire que c'est plus que des fantasmes. Il y a un sondage qui montre que Paris est la ville la plus embouteillée du monde. C'est pour vous dire, c'est quand même il y a un petit souci quand même.
Je vais vous faire une confidence. J'ai 20 ans d'automobile. Et j'ai fini par passer au vélo électrique parce que j'en pouvais plus.
Mais
je mets 15 minutes pour aller dans une de mes affaires aujourd'hui. Bon, voilà, il faut s'habituer à une transformation.
J'ai jamais été en automobile à Paris, donc si vous voulez, je parle pas. Voilà. Pour vous, les restaurants, il y aura quoi? La moitié des restaurants parisiens qui seront fermés?
Oui, on fera dans la
pronostique.
C'est ce qui se passe au fond chaque année. Il y a plus de la moitié des restaurants à Paris qui ferment. Pourquoi? Parce qu'il faut bien.
Non, mais là, on aurait pu imaginer qu'ils soient ouverts pour les Jeux Olympiques, puisque ça arrive une fois tous les 100 ans.
Oui, mais du coup, vous fermez quand pour donner les 5 semaines de congé à vos salariés? Donc, à un moment, on fait des arbitrages. Quand vous êtes chef d'entreprise, c'est faire des arbitrages. Ouais. Et puis, au-delà de ça, les villages olympiques ont tellement été cadenassés. Je pense que la France, pour le coup, sait, si je peux passer un coup de gueule, c'est qu'on a raté le rayonnement de notre gastronomie. On aurait quand même pu avoir un vrai jambon beurre disponible au sein du village olympique, etc. Là, il y aura quand même beaucoup de malbouffe qui seront servis autour des stands de malbouffe.
Tiens, à propos, est-ce que c'est toujours un métier qui est très en tension? Là, donc Gabriel Attal nous a expliqué un peu les nouvelles règles de l'assurance chômage. C'est un sacré tournevis. Oui. Faut voir maintenant l'apparition des décrets. vous avez dit chez nos confrères de BFM TV, vous dites, mais de toute manière, nous, on est des métiers tellement en tension qu'on n'a pas... On n'a pas besoin d'assurance chômage.
Mais oui, enfin...
C'est la provoque de la Stéphane Manigault.
C'est pas de la provoque, c'est factuel. Je vous dis quelques chiffres, puisque nous avons la chance d'avoir une audience de grande qualité de chef d'entreprise. Ouais. Cuisinier à Paris. Il y a 9444 profils aujourd'hui de cuisiniers et cuisinières qui cherchent du travail à Paris. Moi, je comprends pas en fait pourquoi on n'a pas besoin. On recherche et puis la solidarité nationale paye. Enfin, nous, les entreprises, parce que seules les cotisations d'entreprise vont pour financer l'assurance chômage aujourd'hui depuis 2019. Il y a 9400. Vous avez 822 boulangers. Ça fait 20 boulangers par arrondissement disponibles. Vous avez 3598 électriciens et électriciennes. Vous avez déjà essayé d'appeler un électricien, vous, pour régler un point électrique à Paris? Eux, ils sont financés par la Solidarité Nationale depuis moins de 3 mois et ils viennent pas à travailler. Vous avez 1800 plombiers, 408 bouchers, 7600 employés et employés de ménage.
Ils sortent d'où ces chiffres?
Rien qu'à Paris. Le site France Travail. N'importe qui peut aller sur le site de France Travail, se connecter et aller chercher.
Demain matin.
Après, moi, je recrute. Moi, je les appelle. Quand je recherche, je les appelle et je leur dis, mais alors quand ils m'expliquent, vous savez, j'ai envie de travailler, je préfère attendre septembre, j'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie de tourner. Moi, je vais remettre à leur place. Je leur dis, vous croyez que nous, on cotise pour que vous puissiez vous balader, l'oisiveté, etc. Non, au travail.
Mais là,
on n'a pas à payer l'oisiveté. Si les gens veulent, si les salariés veulent profiter, ça, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez connu, Mouzi, ça s'appelle le congé sabbatique. Ou les congés sans solde.
Oui, mais ça concerne très peu de personnes, ça.
Vous plaisantez? 9444 cuisiniers disponibles à Paris qui sont financés par la Solidarité Nationale. 9000. On pourrait recruter...
Mais parce que justement, les restaurants ont fait faillite. C'est ce que vous venez de nous expliquer avant.
Sur le plan national, là, je vous donne les chiffres rien qu'à Paris. Mais si vous voulez les chiffres sur le plan national, c'est 120 000 personnes qui cherchent du travail payé par la Solidarité Nationale. C'est pas acceptable. Ouais. Donc oui, Gabriel Attal, il doit accélérer la réforme du chômage.
Voilà, bah dis donc. Merci beaucoup Stéphane Manigault.
Et tous au travail et tous au restaurant. Parce que si vous ne travaillez pas, vous pouvez pas vous prendre plaisir et vous n'allez pas prendre boire un apéro comme on va faire peut-être tout à l'heure.
Stéphane Manigault, le patron de Groupe Éclair, donc avec 9 restaurants et dont 7 seront fermés pendant les Jeux Olympiques. Voilà.
On va faire des travaux.
On va faire des travaux, voilà. Et le patron de la région Immigrants Paris. Merci beaucoup. Tout de suite, Thomas Asportas nous apporte toute l'info.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business, le débrief de la grande interview avec Edwige Chevrillon. Bonsoir Edwige, et Denis Terrien qui nous a rejoint d'ores et déjà en plateau. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Président de l'Institut français des administrateurs et Audrey Tcherkov bien sûr.
Bonsoir Thomas et bonsoir à tous.
Alors Edwige, d'un mot, Stéphane Manigault qui était votre invité, président du groupe Éclair, président de l'UMIH Grand Paris. On se demandait si les restaurants allaient payer l'addition, sans mauvais jeu de mots, des JO. Finalement, il nous dit qu'en gros, ça va être un été un peu comme les autres, beaucoup de restos vont fermer, ça va être un cataclysme pour la profession.
Non, ce qu'il a dit, oui, enfin, absolument, vous avez raison. Il a dit simplement qu'en 2023, en 2022, on est tous sortis, etc. Donc, oui. C'était l'euphorie. 2023, ça a été quand même très, très dur. Il y en a certains qui ont fait un peu trop les cigales et non pas les fourmis. Et donc, il dit, mais moi, je pense qu'il fallait faire attention à sa trésorerie. Et du coup, en 2024, ça trinque quand même beaucoup parce qu'il y a plus de fermetures de restaurants que de repreneurs de restaurants. Donc, ça veut dire que les prix sont, c'est vraiment à la casse. Et donc, une situation quand même qui devient très tendue et assez difficile. Les Jeux Olympiques, évidemment, c'est toujours une opportunité. Lui, il voit ça plutôt après.
Donc, ouais, c'est intéressant.
Après,
ouais.
En disant, bah, attendez, on va avoir des magnifiques images. Donc, ça va être très, très bon pour
l'hôtellerie,
pour les années à venir.
Et surtout, la réouverture de Notre-Dame. Il dit ça va être en fait le moment, le jackpot pour nous en fin d'année, en début décembre.
8 décembre. 8
décembre. C'est là, voilà. Ouais, c'est ça la date qu'il a coché plus.
Ouais, parce qu'il y a quand même un phénomène qu'on voit bien, c'est le nombre d'ouvertures de fast-food.
Aussi, ouais.
Ça, du coup, c'est pas la. C'est pas de la cuisine française.
Non,
pas la
c'est française, comme une autre restauration, évidemment, mais qui marche très bien. On en a parlé sur l'antenne. Audrey, on passe des restos au conseil d'administration.
Exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des assemblées générales? Eh bien, parce que la journée des administrateurs se tient demain à l'Institut de France avec le président de l'Institut français des administrateurs, qui est avec nous. Bonsoir, Denis Terrien.
Bonsoir, Audrey. Bonsoir.
Alors, vous êtes aussi vice-président exécutif du géant américain Salesforce. Alors, quel bilan, Denis, est-ce qu'on peut tirer de cette saison des AG qui s'achève?
Alors, on est en plein milieu des AG en ce moment, et ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des débats, qu'ils soient sur le salaire, les dividendes, la transition climatique qu'il faut faire, tout ça, c'est vraiment sur le partage de la création de valeur. Et au sein de l'IFA, ce que l'on veut, c'est dépasser le débat marxiste, salaire contre dividende, et vraiment que les entreprises, maintenant, se réunissent au moins une fois par an pour penser à la création de la valeur à partager, non seulement avec les parties qu'on appelle constituantes de l'entreprise, les salariés, le management et les actionnaires, chacun a droit à leur rémunération, mais aussi avec toutes les autres parties prenantes de l'entreprise, qui est l'écosystème, et avec deux gros investissements qu'il faut faire. L'un, c'est la transition climatique, et l'autre, c'est le digital.
Et ce serait quoi ces rendez-vous alors? C'est pas l'Assemblée Générale, c'est autre chose? Vous dites se réunir au moins une fois par an, mais avec toutes les parties prenantes, ce serait quoi?
Alors, pas toutes les parties prenantes. Il faut que le Conseil d'administration réfléchisse à ça, à comment on partage la valeur, et même encore mieux, comment, au sein de la stratégie de l'entreprise, on pense à la création de valeur qu'on pourra partager. Et donc ça, c'est vraiment un shift qui est demandé.
Pardonnez-moi, mais c'est pour ça que ce n'est pas un débat marxiste. Hein, c'est un débat qui concerne tous les salariés versus les actionnaires. C'est un débat d'aujourd'hui, c'est pas...
Le débat marxiste était le partage de la valeur, c'est salaire contre dividende.
Ouais.
Mais on a bien dépassé ça maintenant. Parce qu'on a les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis du territoire dans lequel ils travaillent, où elles implantent leur siège social, où elles implantent leurs usines, et comment elles vivent dans ce milieu qui est quand même très très difficile, où on voit, on en parlera peut-être tout à l'heure, la guerre entre la Chine et les États-Unis, dans lequel l'Europe est prise d'assaut.
Oui, on va parler de l'aspect plutôt géopolitique, mais avant, il y a quand même des AG tendus, Denis Terrien, je pense à Amundi, mais aussi Total, Carrefour. Qu'est-ce que vous en dites de ces tensions?
Alors ça, c'est un autre sujet qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit que cet équilibre qu'il y avait entre ces parties, qui sont l'AG, le conseil d'administration, le président et le DG, eh bien, il y a une volonté de certaines parties de changer cet équilibre des pouvoirs. Déjà une entreprise, mais vous savez, c'est comme un pays. Dans un pays, il y a des assemblées, il y a un président, il y a un gouvernement. Chacun a son rôle, chacun a sa responsabilité et chacun le doit devant une instance. La même chose dans une entreprise. Le comité exécutif travaille pour le DG. Le DG est nommé par le conseil d'administration et rapporte au conseil. Le conseil d'administration va voir une fois par an l'AG. Et il y a des personnes qui voudraient changer cet équilibre-là. Et d'ailleurs, pour Total,
Pensez quoi? Est-ce que ce système-là, que vous avez rappelé et qu'on connaît tous sur BFM Business, est-ce qu'il est un petit peu fatigué? Un peu comme nos démocraties, vous parlez de politique.
Oui, alors je pense
est-ce qu'il faudrait revoir le dialogue, la démocratie en entreprise?
Absolument.
Et alors comment?
Je crois qu'il faut améliorer ce qu'on appelle le dialogue actionnarial. Alors certaines sociétés le font très bien, d'autres le font moins bien. je suis pas là pour donner des bonnes et mauvaises notes, mais certaines
sociétés. Mais c'est vous qui dites que certains le font très bien, voilà. C'est intéressant. Mais
par exemple, Total Energy le fait très bien, puisque c'est même pour ça qu'ils s'interrogent, pour ça qu'ils vont aller aux États-Unis, parce que les actionnaires seront mieux rémunérés. Donc voilà. C'est pour dire.
En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi chaque. Une certaine partie prenante, comme des Oxfam ou des ONG, qui défendent leur point de vue, et elles ont le droit de défendre leur point de vue. Mais d'autres, par exemple des fonds de pension français ou anglo-saxons, vont défendre aussi leur point de vue, et il appartient au conseil d'administration de finalement gérer cet équilibre délicat.
À condition qu'il joue son rôle, ce qui n'est pas toujours le cas.
Je vous laisse.
Bah non, mais c'est vrai.
Oui, alors
souvent il y a des conseils. On dit, il a réussi à mettre son conseil à sa main. Enfin, on l'écrit souvent et on le dit souvent.
Les jeux d'influence, en effet, ils existent et on peut pas dire le contraire. On rappelle juste Oxfam, notamment ce que eux demandent, c'est d'arrêter les dividendes.
Voilà. Alors bon, c'est une position assez extrême. Si jamais on regarde, qu'est-ce que c'est qu'un dividende ? Pour avoir une société, il faut des gens. Croient dans le projet, mettent de leur propre argent, et il y a des employés et du management. Les employés et le management, chacun ont une rémunération, et les dividendes, c'est la rémunération de celui qui a mis l'argent. Donc Oxfam dit très bien, on arrête de payer ça tant que la transition n'est pas faite. Imaginez qu'on dise, on arrête de payer les salariés, les salaires des personnes, tant que la transition n'est pas faite. Là, Oxfam dirait non. Alors, je ne vois pas en quoi on pénaliserait une des parties prenantes constitutives par rapport aux autres. Donc, la position de l'IFA est très claire là-dessus. Il faut rémunérer à sa juste valeur chacune des parties prenantes, constitutives. Et là, il peut y avoir un débat. Est-ce que ça va prendre dans un sens ou dans l'autre ? C'était un peu ce que vous disiez, Edwige. Et derrière, surtout, mais il faut penser aux défis que l'on a. Et là-dessus, donc, le défi climatique, la loi est là. Il faut être aucun appart carbone en 2050. Les sociétés travaillent dessus. Il y a aujourd'hui 80% des sociétés du CAC 40 en France qui ont un comité ESG. Il y a 5 ans, c'était moins de la moitié. Aujourd'hui, plus de 80% des dirigeants de sociétés ont aussi une partie variable qui est liée à l'impact climatique.
Ça, c'est très important.
Ouais, voilà. Parce que
le comité ESG, si vous voulez, pardonnez-moi, je vois peut-être moins l'entreprise comme un pays, comme Alice au Pays des Merveilles, mais pour reprendre votre expression de pays, cela dit, je trouve que le comité ESG, on a vu des entreprises, je ne vais pas les citer là pour le coup, où c'était la catastrophe, la débâcle totale, et qui étaient dans les rankings de ESG numéro 1 ou numéro 2, devant les meilleurs classements ESG. En revanche, je pense que là où ça joue beaucoup, beaucoup, c'est quand la partie variable du dirigeant ou des dirigeants et en fonction de critères ESG.
Je suis bien d'accord.
Là, ça joue.
Et quand on regarde, précisément, puisque vous nous en parliez à l'instant, la rémunération variable de Patrick Pouyanné, et on sait combien Total a besoin de s'investir dans la transition écologique, sur cette partie ESG, transition climatique, c'est que dalle.
Est-ce que vous appelez à ce que ce soit dans la loi ? Parce qu'Emmanuel Macron l'avait mis dans son programme en 2022. Il avait dit la part de la performance extra-financière doit être sanctuarisée dans la loi.
Et ça fait partie de la loi Pacte.
Alors, plus on met de lois, plus on limite finalement la responsabilité du conseil d'administration. Donc là-dessus, quelles sont les lois qui sont passées sur lesquelles, voilà, la transition énergétique doit être faite et il y a un marqueur qui est 2050. Deuxièmement, il y a des éléments de mesure qui arrivent. Les CSRD qui a été voté, qui arrive en 2026. Et donc, on va pouvoir maintenant comparer. Donc, on a déjà beaucoup de lois. Moi, là, j'en appelle aux entreprises à vraiment réaliser ça. Et on parle des bonnes pratiques au sein de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. On parle des bonnes pratiques. Et c'est effectivement mettre une partie variable dans la rémunération des dirigeants. Et là, on préfère que ça soit sur le moyen et long terme plutôt que sur le court terme, parce que la transition climatique, ça prend quand même du temps.
Mais non, mais
c'est coûteux, c'est complexe,
mais en même temps,
et c'est collaboratif.
Aussi, oui, mais ça prend les décisions maintenant.
Oui, en ce moment, mais c'est collaboratif.
Il y a deux ans, j'aurais tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a urgence.
Et on est déjà très en retard. Oui,
voilà,
c'est clair.
Donc, il faut vraiment le faire presque aussi à court terme.
Mais est-ce qu'on peut dire que les dividendes records aujourd'hui qui sont versés aux actionnaires ne leur suffisent plus et que leurs attentes se portent aussi sur des sujets un peu plus sociétaux, en effet comme la transition climatique ou encore le partage de la valeur, et que par conséquent, ce sont des sujets qui vont influencer le renouvellement des conseils d'administration, notamment du CAC 40 ?
Voilà. Alors, il y a deux sujets là. Le premier, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte toutes ces mesures ? Absolument. Et parce qu'il y a le changement climatique, il y a la transition digitale aussi. Enfin, c'est des investissements énormes pour les boîtes. Et là-dessus, il faut s'engager sur plusieurs années. Donc, et c'est là où, au sein de l'IFA, on appelle tous les conseils d'administration, une fois par an, à parler pendant 3, 5, 8 heures sur comment on va partager cette valeur. Aujourd'hui, 60% des gens qui travaillent sur ce partage de la valeur, c'est au sein du comité de rémunération. C'est bien, mais c'est pas au sein de la stratégie. Au sein de l'IFA, on appelle pour que ça soit maintenant un débat stratégique. On dit comment on va créer de la valeur à distribuer aux parties prenantes, à réinvestir aussi dans la transition climatique. On va se mettre un plan et on va se mettre sur ce chemin. D'accord. Est-ce qu'on peut aller plus vite ? On peut toujours aller plus vite. On peut toujours aller plus vite. Là aussi, reconnaissons qu'il y a eu ce shift. Et là où je salue les pouvoirs publics, c'est cette loi qui est pour 2050 et cet élément de mesure maintenant qui sera comparatif pour tout le monde, une loi européenne.
Qu'est-ce qui préoccupe le plus les administrateurs dans les
beaucoup,
conseils
hein, qui inquiète cette loi, elle inquiète beaucoup les entreprises parce qu'il y a tellement de critères qui se disent, mais attendez, notamment les petites entreprises, ils n'arriveront jamais à remplir tous les critères de CSRD.
Ça, c'est le défaut des bonnes intentions, parce que les bonnes intentions sont faites et les gens ont dans leur tête des grosses entreprises dans lesquelles il y a plein de personnel qui peuvent faire ça dans certains départements. Quand on a une ETI de 500 personnes et que ça nous tombe dessus parce que c'est au-dessus de 250 employés, on dit « Waouh, comment je vais faire ça ?» Donc là-dessus, c'est la bonne intention et n'est pas toujours bien réalisée par nos politiques qui comprennent moins le milieu de l'entreprise.
Dans les conseils, qu'est-ce qui préoccupe le plus les administrateurs ? On parle beaucoup du climat, bien évidemment, mais est-ce que c'est le partage de la valeur ? Est-ce que c'est l'IA, la révolution tech ? C'est quoi qui revient le plus dans les discussions ?
Je pense que c'est vraiment la pérennité de l'entreprise. Aujourd'hui, l'administrateur, c'est comme
les entreprises se sentent en danger, menacées.
Oui, parce que le monde est très très incertain. Il y a vraiment des plaques tectoniques là qui sont en train de se casser hein, entre les guerres qui est en Ukraine, on aurait pu penser que ça s'arrête mais ça continue, la bataille qui est lancée entre les États-Unis et la Chine, les coûts des matières premières qui montent et qui diminuent, le coût des transports aussi, rappelez-vous la logistique en 2020 où les coûts ont explosé et maintenant, et donc on a une certaine insécurité et là-dessus il faut que le conseil d'administration qui généralement se penche sur les 3 à 10 ans qui viennent Si je m'en sépare un peu le rôle du DG, le DG c'est vraiment de 1 à 3 ans et le conseil de 3 à 10 ans. Donc le conseil d'administration doit prendre en compte toutes ces données et aider l'entreprise à être encore performante et viable d'ici 5 à 8 ans dans un monde super complexe. Et là-dessus, l'IFA a deux rôles. Un, c'est d'expliquer la complexité de ce monde et donner des règles de bonne conduite et former les administrateurs.
Et, alors juste attendez parce que sur le sujet du partage de la valeur, donc on sait que c'est les administrateurs évidemment qui sont aussi aux manettes. Alors la France a beau être le pays européen où l'actionnariat salarié est le plus développé, il n'en reste pas moins que la part du capital détenu par les salariés actionnaires stagne à 4%. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va évoluer ?
Ah bah oui, mais si vous prenez Total, hein, je crois que c'est 8,5. Hein, donc
oui, Renault s'engage aussi beaucoup dedans.
50 000 euros en moyenne pour les gens qui travaille chez Total.
Mais quid des autres entreprises ?
Je pense que c'est une très bonne manière de lier les employés avec leur entreprise. En revanche, il faut faire attention...
Beaucoup d'entreprises du CAC 40.
Il faut faire attention que ce soit pas lié à aussi des... que ça représente une partie proportionnée par rapport à leur rémunération. Hein, parce que quand on
gagne... Des
employés, certains employés. Et là-dessus, l'entreprise doit faire un effort pour abonder, pour aider, parce que la cour d'action peut monter et peut descendre. Des dividendes, on l'a vu dans l'histoire, peuvent être donnés ou pas donnés. Et quand on a un salaire qui est limité, l'impact que l'on a avec des actions de son entreprise est quand même fort. En revanche, on pense que c'est bien qu'on puisse permettre à certains salariés d'investir, mais ça c'est plutôt les grandes sociétés, hein, qu'on a une ETI familiale. On veut pas ouvrir son capital à tout le monde et d'abonder pour aider là-dessus. Et il y a des sociétés, par exemple, Essilor aussi le fait très bien depuis très longtemps.
Oui, absolument. Mais enfin, Edwige, vous m'avez dit que beaucoup d'entreprises du CAC 40 le font. Encore une fois, en France, on a 4%.
Très souvent premier actionnaire.
Oui, mais on est quand même loin de la barre des 10% objectif déclaré dans la loi Pacte 2019. Voilà. Donc on voit bien que ça peine à se mettre en place
à l'échelle. C'est compliqué. Et puis comme le disait Denis Terrien aussi, d'abord, il y a souvent une réticence des salariés. Parce qu'en France, on n'a pas assez, une des raisons pour lesquelles on n'a pas de fonds de pension, parce qu'on a des craintes par rapport à la capitalisation. Ouais. Et puis, surtout, c'est que c'est des sommes. Alors, c'est là où on doit avoir un abondement qui permet de devenir actionnaire sans que ça
pénalise
un prélèvement sur votre salaire, parce que c'est, mais vous prenez chez PSA, enfin maintenant
chez Stellantis,
mais je commence par PSA parce que c'était ça au départ, c'est une des premières choses qu'a mis en place Carlos Tavares.
Sur la question du partage de la valeur, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Florent Ménégo chez Michelin, le salaire décent, est-ce que c'est bonne réponse?
Ça, c'est une réflexion exceptionnelle. Aujourd'hui, on a une loi en France qui est le salaire minimum, c'est le SMIC. Dans certains territoires en France, on peut vivre avec ce SMIC. À Paris, c'est juste impossible de vivre avec le SMIC. Ce qui a été fait par Michelin, je crois...
C'est mondial, hein.
C'est vraiment mondial. Une révolution. Il y a plusieurs révolutions qui se font aujourd'hui dans les entreprises. La première, c'est une nouvelle façon de réfléchir à comment l'organisation de l'entreprise est. Et c'est comme Ford a fait il y a 100 ans. La deuxième, c'est rémunérer ses employés d'une manière différente, aussi comme Ford a fait il y a 100 ans. Et effectivement, se dire que le salaire moyen en France, disons, de 25 000 euros, on peut vivre à Clermont-Ferrand avec 27 ou 28, mais à Paris, il faut 39 000 euros, c'est vraiment un engagement très très fort sur ce partage de la valeur. Est-ce que toutes les sociétés peuvent le faire? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut s'en inspirer, parce qu'avant ça, il y a quand même eu une réflexion sur ce partage de la valeur. Et se dire, qu'est-ce que ça, en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que conseiller d'administration, qu'est-ce que ça reflète sur la manière dont moi je pense, dans mon entreprise, à cette création et ce partage.
Donc vous dites que c'est un exemple ce qu'il a fait.
C'est un exemple, absolument.
Ce qui est très intéressant quand on discute, parce que là, la semaine dernière, j'ai longuement discuté avec lui sur ce point-là, c'est qu'il dit, en plus, ça crée un lien avec l'entreprise, parce qu'il y a la rémunération partout dans le monde, c'est son engagement. Il y a aussi une assurance, des avantages sociaux qui sont quand même aussi très forts. Donc tout le monde doit être assuré dans le groupe Michelin. Et dit ça crée un lien avec l'entreprise. Mais en même temps, ça change beaucoup le management. Enfin, il disait il faut quand même former les managers pour expliquer pourquoi l'intérêt de cette démarche, parce que derrière, il est hors de question que ça pénalise les performances. C'est-à-dire qu'il exige exactement les mêmes performances de ses managers.
Il les a présentés hier, d'ailleurs.
Voilà. Mais en même temps, au moment
Michelin
où... Oui, absolument. Mais Michelin fait face, comme beaucoup d'autres, à la pénurie de main-d'œuvre. Et en termes de marque employeur, c'était quand même plutôt bien joué d'annoncer ça.
Oui, je ne pense pas qu'ils l'ont fait. Alors,
non, je suis d'accord avec vous. Mais c'est sûr que ça attire d'autant plus les talents.
Mais regardons aussi, dans toutes les industries, on ne peut pas faire ça. Dans la distribution, une industrie dans laquelle ça souffre énormément, où le coût de la main-d'œuvre, la distribution...
Oui, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire?
Parce que chez Mais ben, ça fait quelques 1 ou 2% de marge. Salaire représente 10 à 15% chez un distributeur. Si jamais on augmente de 2 à 3%, il n'y a plus de profit. Et donc, c'est en ça, aujourd'hui, l'exemple est très intéressant. Il faut le réfléchir. C'est une réflexion de moyen et long terme. Mais voilà un exemple d'une réflexion sur le partage de la valeur intéressante.
Une autre question qui se pose aussi récurremment, c'est est-ce qu'il faut dissocier systématiquement les fonctions de président du conseil? Voilà, vous dites c'est les 3 à 10 ans, et directeur général, c'est les mains dans le cambouis, c'est les mains à 3 ans.
Parce que c'est dans tous les sens, là, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y en a des fonctions qui étaient dissociées, sont en train de se rassembler, PDG, on voit ça chez Saint-Gobain. Il y en a d'autres où on dit, tiens, il faut dissocier. On voit ça aussi chez Publicis, hein, du reste PDG. Quand on a un peu de bouteille, on voit un peu tous les cycles passer.
Oui, mais ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise et du secteur.
Voilà. Là-dessus, il y a aussi des positions un peu extrêmes. En Angleterre, par exemple, c'est obligé de dissocier.
Oui. Mmh.
D'accord. En Allemagne, il n'y a même pas de PDG parce qu'il y a un supervisory board et puis un autre comité. Et donc, on a des législations différentes. Il y a en France où, historiquement, il y a eu un PDG. Pourquoi? Parce que le monde était assez connu. On était sur ce territoire. On a parlé tout à l'heure de la complexité qui est arrivée. On a parlé tout à l'heure du dialogue actionnarial.
Oui.
Ce que l'on observe, c'est que ces demandes accrues envers le président du conseil lui demandent de plus en plus de temps. Et donc, ce que l'on voit, c'est que de plus en plus de personnes sont en train de dissocier. Et c'est très rare, une fois qu'on a dissocié...
C'est plutôt l'inverse en France.
Il y en a une ou deux qui, effectivement, ont remis ensemble. Mais si jamais on regarde par rapport à 15 ans et aujourd'hui, on a dépassé le plus de 50% sont dissociés. D'accord. Mais là-dessus, ça dépend...
Mais vous, votre conseil, surtout, c'est de dire qu'effectivement, il vaut mieux dissocier.
Bon, alors, ça dépend aussi du temps de l'entreprise. Là-dessus, on n'est pas dogmatique. On parlait tout à l'heure des rôles et responsabilités. On dit un président de conseil d'administration doit animer son conseil pour le travail, doit s'assurer du bon dialogue actionnarial et doit projeter l'entreprise du 3 à 10 ans. Ça, c'est le rôle. Le DG, lui, doit gérer tous les jours et en gros délivrer la stratégie de 1 à 3 ans.
Ouais.
Et donc, des fois, c'est difficile pour la même personne de faire les deux dans certaines entreprises. Ouais. Dans d'autres, si jamais ils ne le font pas, ils nomment ce qu'ils appellent un administrateur référent qui aide vraiment le PDG à gérer. Voilà. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le boulot du président du conseil devient tellement plus important maintenant que c'est difficile, des fois, d'avoir les deux rôles.
Bon, tous ces débats se tiendront demain, donc.
Exactement.
La journée annuelle de l'Institut des administrateurs, demain, l'Institut de France. Merci d'être venu nous voir à la veille de cet événement. Merci, Denis Terrien.
Merci beaucoup.
D'avoir débattu avec nous. Merci, Edwige. On vous retrouve demain pour la grande interview.
Demain, tiens, lui, il est directeur général.
Franck
Gervais.
Il peut rajouter une lettre
Franck
à
Gervais,
sa fonction.
Le patron de Pierre et Vacances, ouais. Center Parcs. Ben, ça y est, il a pris, il y a 3 ans maintenant, les rênes de Pierre et Vacances. Il est dans une, vraiment en débâcle. Enfin, il y a une période extrêmement difficile.
Plein Covid.
Maintenant, ça va beaucoup mieux.
Ouais.
Donc, il retrouve des couleurs. Et il a un plan de nouveau très ambitieux qu'il nous présentera demain.
Bon, rendez-vous est pris. Et merci Audrey, on a déjà passé une heure ensemble.
Mais merci
très, très vite.
Vous, Thomas. On reste ensemble, on est en direct jusqu'à 20h.
A tout de suite.